Oui, Seigneur, merci de nous conduire dans ta parole et que tout soit fait pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Matthieu chapitre 3. Donc aujourd'hui, nous parlons de Jean-Baptiste comme étant l'Élie qui devait venir. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Nous sommes dans un mois de prière et d'action pour que le Seigneur se manifeste et sauve la multitude. Donc on a dit mois d'évangélisation. Et il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Et donc c'est un mois pendant lequel nous allons implorer son nom, crier à lui pour qu'il se manifeste, pour qu'il sauve le maximum de personnes. Et l'histoire nous montre qu'avant que le Seigneur ne vienne, il y a un homme qui est venu avant lui, il s'appelle Jean-Baptiste. Donc c'était l'ordre du Seigneur. Et le Seigneur ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui encore, nous voulons comprendre pour nous c'est quoi Jean-Baptiste. Et donc nous lisons même dans Malachie 4, il dit qu'avant son retour, Élie reviendra. Et dans Matthieu 11, il explique que cet Élie, c'est Jean-Baptiste. Donc nous lisons au chapitre 3, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Voilà, donc Jean-Baptiste vient avant le Seigneur. Pourquoi il devait venir avant le Seigneur? Parce qu'il fallait que les gens aient soif du Seigneur. Parce que Dieu ne peut pas sauver sans qu'on l'appelle. Donc il fallait que les gens aient envie d'un sauveur. C'est pourquoi Jean-Baptiste vient. Et Jean-Baptiste vient rétablir des choses qui étaient détruites. Et notamment la conception de la vérité et de la sainteté. Les gens ont commencé à s'habituer à aller au temple pour faire de la religion. Ce n'était plus dans le besoin initial de Dieu d'arrêter avec le péché et de ressembler à Dieu. Mais c'était devenu des pratiques religieuses où les gens viennent faire des rituels, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Et Jean-Baptiste vient leur dire, ce n'est pas une histoire de venir prier dans le temple. Ce n'est pas une histoire de venir faire une série de chants ou de prières. C'est une question de changement de vie. Il dit, il faut que vous changiez de vie, il faut que vous vous repentiez. Il faut arrêter de voler. Dans un autre texte, il y a des gens qui disent, mais on fait quoi? Il dit, les soldats, vous arrêtez de voler. Et à d'autres, quand on vous prend une tunique, vous donnez une deuxième. Donc, il est venu dire aux gens, le problème, c'est le péché. Le problème, ce n'est pas être juif. Parce que là, il voit des sadducéens, des pharisiens, il dit, mais le problème, ce n'est pas de se dire, nous sommes des descendants d'Abraham, nous sommes des fils d'Abraham, c'est nous qui sommes des vrais juifs. Non, le problème, c'est est-ce que vous avez la nature de Dieu? Le problème, c'est le péché. C'est ce que Jean est venu dire. C'est pourquoi son baptême, c'est un baptême de repentance. Pour que chacun reconnaisse qu'il a un problème, c'est le péché. Jean est venu ressortir la logique du péché qui était oubliée avec le temps. Et nous sommes des humains comme les humains d'autrefois. Avec le temps, nous oublions. Pourquoi nous nous étonnons? Moi, je viens d'Afrique du Sud, là où il y a un pasteur qui est à la mode. Quand il prie pour toi, de l'argent sort dans ta poche ou bien tu reçois un SMS comme quoi ton compte bancaire a reçu de l'argent. Et tu vérifies, c'est aussi vrai. Il y a cet argent-là. Il fait succès alors que c'est... Tout le monde dit, mais c'est clair que c'est de la magie. Comment les gens peuvent suivre de telles choses? Mais comment les gens peuvent suivre de telles choses? Ça vient par glissement, petit à petit. Donc, avec le temps, on s'écarte de la vraie volonté de Dieu et on fait de la religion. Après, les faux prophètes vont venir avec des bêtises de plus en plus graves. Les gens suivront parce que petit à petit, ils se sont écartés. Et Jean-Baptiste vient justement casser cet égarement-là, dire non, on s'est écarté. Le problème, ce n'est pas être pharisien, être sadducéen, connaître 1000 versets ou je ne sais quoi. Le problème, c'est arrêter avec la nature du mal parce que Dieu n'est pas dedans. Arrêter avec le péché. Je me souviens de mon frère Paul. À un moment, il y a des débats. Vous savez qu'à l'époque de Paul, il y avait des débats à tout moment. Et dans 1 Timothée 2, il dit, mais le problème, c'est de s'éloigner du mal. Que celui qui se dit être de Dieu s'éloigne du mal. Vous savez, on va passer notre temps à dire, mais on prie de cette manière, en avançant le pied gauche, en reculant la tête. Il faut s'habiller de telle manière. À un certain moment, l'apôtre Paul a tranché tout ça en disant, c'est celui qui prétend être de Dieu, qu'il fuit le mal. C'est là qu'on reconnaîtra ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne sont pas de Dieu. Ceux qui sont de Dieu fuiront le mal, refuseront de mentir, refuseront d'injurier, refuseront de voler. Et Jean-Baptiste est venu dire, arrêtons avec le péché, c'est ça qui détruit. Donc on a petit à petit dévié pour commencer à faire de la religion et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut un cœur qui lui appartienne. Et il fallait qu'on envoie Jean-Baptiste. Parce que sinon, les Juifs n'allaient pas comprendre, mais le Seigneur est venu nous sauver? Puisque nous sommes déjà des Juifs. Nous sommes déjà le peuple de Dieu. Mais lui, il vient nous sauver de quoi? C'était un problème. Donc il fallait Jean-Baptiste pour dire, c'est pas un problème d'avoir le titre. C'est pas tout d'avoir le titre. Peuple de Dieu, il faut arrêter avec le mal. Vous voyez, il faut comprendre l'enchaînement des choses. Donc les gens, ils sont déjà peuple de Dieu, mais toi, tu viens les sauver. Tu viens les sauver de quoi? Ils sont déjà peuple de Dieu. Il fallait envoyer quelqu'un pour leur dire, vous n'êtes pas sauvés. Vous êtes officiellement le peuple de Dieu, c'est vrai, mais vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez le péché en vous. Et il n'y a qu'un seul qui peut vous sauver de ce péché. Il est en train d'arriver. Moi, je viens vous faire prendre conscience que vous avez le péché en vous. Bien-aimés, aujourd'hui, qui est Jean-Baptiste? C'est vous et moi. Avant que le Seigneur n'agisse avec puissance, nous avons besoin d'interpeller l'humanité. Nous avons besoin de montrer à l'humanité qu'il y a le péché qui détruit dans l'humanité. Nous avons besoin de montrer cela clairement. En parlant, bien sûr, mais aussi par notre comportement. Jean-Baptiste parlait, mais il prêchait dans le désert, il n'y avait pas forcément beaucoup de monde. Mais il avait aussi une attitude. Il avait les deux. En parlant, ma voix avec aussi l'attitude. Pourquoi Dieu va demander à Jean-Baptiste de mener une vie comme ça, où il met une peau de chèvre, il mange le miel, il vit comme un sauvage dans le désert? Il fallait, bien aimé, marquer la sainteté de Dieu. Fallait que les gens qui se croyaient forts en Dieu réalisent que Jean-Baptiste est au-dessus d'eux. Il y a des gens qui se croyaient forts en Dieu, comme les pharisiens et les sadducéens. Ils se croyaient près de Dieu, bons, forts, connaissant la parole, saints. Mais quand tu observes quelqu'un comme Jean-Baptiste, à 30 ans, il n'est pas marié. Il vit, il mange des sauterelles et du miel dans sa consécration avec Dieu. Il dort dehors. Qui va se comparer à quelqu'un comme ça pour dire je suis plus saint que lui? Va te comparer à lui. Il n'est pas habillé en tunique spéciale, avec des franges en or, non. En peau d'animaux, il est habillé. Il mange du miel et des sauterelles. Va maintenant prouver que tu es plus saint que lui. Donc nous sommes dans une époque où les gens aussi, il y a des gens qui font des cadeaux au resto du cœur, des gens qui viennent régulièrement à l'église, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et de telles personnes ont besoin de réaliser que nous sommes plus saints qu'eux, pour qu'ils s'inclinent, pour qu'ils crient eux aussi à leur tour, nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin de Jésus. Et donc, Dieu nous appelle à adopter une attitude d'amour et de droiture qui dépasse ce qu'un homme peut faire par sa propre force. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Matthieu 5, 20, je crois, que votre justice dépasse celle des pharisiens. Donc Jean était habillé en poils d'animaux et mangeait des sauterelles et du miel. Allait dépasser quelqu'un comme ça en sainteté. Il n'y avait personne. Ils étaient obligés de s'incliner pour venir eux aussi se faire baptiser. Voilà. Pour certains, mais pas d'autres, malheureusement, qui ont arrêté le plan de Dieu dans leur vie. Et Jean-Baptiste, c'est ça que Dieu attend de nous, qu'on ressemble à Jean-Baptiste. Dieu attend de nous qu'on soit comme Jésus, mais en passant par Jean-Baptiste. C'est-à-dire, nous devons, par notre comportement, montrer aux autres qui sont dans le péché. Quelqu'un qui se croyait bon, en t'affrontant, il réalise qu'il n'était pas si bon que ça. Quand il affrontait tout le monde, il arrivait à être plus saint, plus propre. Mais lorsqu'il t'affronte, toi, tu es plus doux que lui, tu es plus calme, tu pardonnes plus que lui, et la personne réalise qu'elle a le péché en elle. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous n'allons pas nous habiller forcément en poils, en peau d'animaux, mais notre comportement ressemblera à des peaux d'animaux. Donc lorsque nous avons un accident, comment nous allons réagir? Nous allons réagir en quelqu'un qui croit en Dieu à tel point que même celui qui pensait croire en Dieu se rend compte qu'il ne croyait pas encore vraiment en Dieu et il se repent pour demander la puissance du ciel, le salut du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ressembler à Jean-Baptiste. Nous avons besoin de parler comme lui, de dire clairement les choses. Nous sommes dans une époque où on peut te porter plainte pour ce que tu dis. Donc nous avons besoin de retrouver l'esprit de Jean-Baptiste, qui était l'esprit d'Élie, qui était de dire la vérité clairement. Et c'est ça, cette vérité-là qui l'a amené à la mort. Il a dit la vérité au roi en disant que tu as pris la femme de ton frère, c'est pas bon, c'est un péché. On l'a emprisonné à cause de ça. Et toujours dans cet esprit de vérité-là, on a demandé sa tête par la femme du roi et il a été tué. Donc, nous voulons le salut du Seigneur, nous devons être capables aussi de dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas en train de dire que nous courions les rues pour commencer à dire « ça c'est un péché, ça c'est un péché, ça c'est un péché ». Non, l'Esprit nous conduira à dire les choses au bon moment et ce que je demande, c'est que nous ne puissions pas bloquer l'action de l'Esprit. L'Esprit va se servir de nous comme il s'est servi de Jean-Baptiste, parce que c'est l'Esprit Saint qui fait ces choses-là. Jean-Baptiste n'était qu'un homme, mais c'est l'Esprit Saint qui agissait en lui, et lui l'a accepté cela. Donc nous devons être prêts à dire la vérité telle qu'elle est, comme Jean-Baptiste, et nous devons être prêts à vivre la vérité comme Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a vécu la vérité au point que quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est effacé, il a dit, mon temps est passé, maintenant c'est le temps de Jésus. C'est ça la vérité. Donc on doit être prêt à vivre la vérité jusqu'à s'effacer et laisser le Seigneur agir. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Deuxième chose, là nous n'allons pas lire le texte, mais le texte se trouve dans Malachie chapitre 4. On dit de Jean-Baptiste que c'est lui l'Élie et il va ramener le cœur de père aux enfants. Le cœur de père, c'est ce que Dieu a fixé dès le départ la foi d'Abraham, la foi de David. La foi pour nous, les pères, c'est qui? C'est les apôtres. La foi des apôtres. Donc quand Dieu envoie l'esprit d'Élie, l'esprit de Jean-Baptiste, c'est pour amener ceux qui vivent actuellement à retrouver la foi des anciens. Donc Jean-Baptiste est venu dire que ce que Dieu veut, c'est ce que notre frère, notre chrétien avant le temps, David, a dit dans Psaume 51. Il veut un esprit contrit qui se repent. Ce que Dieu veut, c'est que quelqu'un reconnaisse ses péchés et arrête. C'est ce que Dieu attend. Donc Jean-Baptiste est venu remettre ça au goût du jour alors que les choses avaient pris une logique religieuse, aller prier au temple à telle heure, faire telle cérémonie la nuit, amener tel animal. On se souvient même du psaume 40 où le Seigneur Jésus dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. » Dieu en avait marre de la religion de l'époque où les gens allaient au temple faire des choses, mais ils oubliaient le véritable problème qui était le péché, qui était le problème d'être à la ressemblance de Dieu. C'est ce qui comptait pour Dieu. C'était pas le fait d'aller au temple faire des choses. Donc Jean-Baptiste est venu remettre la sainteté au goût du jour pour dire que ce que Dieu attend, c'est qu'on change de cœur. Ce que Dieu attend, c'est qu'on réponde au mal par le bien, pas au mal par le mal. Ce que Dieu attend, c'est qu'on soit bon comme lui. C'est qu'on soit amour comme lui. Notre grand frère Jean dit dans 1 Jean 4, 8, « Celui qui n'a pas l'amour n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, l'esprit d'Élie, c'est ça, l'esprit de Jean-Baptiste, c'est de dire, revenons à ce que Dieu veut réellement. Nous nous sommes laissés aller à la religion où on vient prier, on fait des choses, mais non, ce que Dieu attend, c'est que le cœur change, qu'on soit comme lui-même. Et quand quelqu'un se rend compte de cela, il se sent éloigné du vrai objectif de Dieu, alors c'est là qu'il crie au Sauveur. C'est là qu'il crie au Sauveur. Donc nous devons, bien aimé, ramener les choses. Donc comme au temps des apôtres, nous ferons face à des gens qui se pensent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Parce qu'ils ne sont plus dans l'esprit de ce que Dieu veut réellement. Jésus avait reçu la visite de Nicodème. Il a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème pensait être très proche de Dieu, mais on lui fait comprendre qu'il ne l'était pas. Et Jean-Baptiste était venu justement pour ça, parce que des gens comme les pharisiens et les sadducéens viennent aussi le voir. Il dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il a dit, mais maintenant vous comprenez que vous n'êtes pas de Dieu. Jean-Baptiste, par sa sainteté et par ses discours, a fait comprendre à ces gens-là que vous n'êtes pas près de Dieu. Et donc, nous serons amenés à cela, bien-aimés, à faire comprendre à des gens qui sont parfois même pasteurs qui ne sont pas encore chrétiens. On l'a vu avec le Maurice Ray. Maurice Ray se croyait chrétien. Il était même pasteur, ça faisait 3 ans qu'il dirigeait une église. Mais il a eu l'humilité et l'honnêteté de saisir l'action de l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu, l'Esprit d'Élie qui lui montrait qu'il était dans l'erreur. Il n'était pas dans la vérité, il était dans le péché. Il n'était pas bien. Et il a fait venir un pasteur aîné et il lui a expliqué sa situation. Il a dit, je ne comprends pas. Ça fait 3 ans que je dirige l'église. J'ai mon diplôme de théologie. Je suis pasteur. Je ne comprends pas. Rien ne marche. Je ne me sens pas bien. Et ils ont discuté. Et à la fin, le pasteur aîné lui dit, je comprends ton problème. Tu n'es pas encore chrétien. Il dit, comment ça, je ne suis pas encore chrétien? Je suis pasteur, j'ai un diplôme de théologie. Il dit, mais c'est ça ton problème, tu n'es pas encore chrétien. Tu as fait des choses dans la logique des gens que tu as trouvés. Et beaucoup viennent dans les églises en suivant, par suivisme. Donc, il faut aller se protéger. Il faut prier Dieu. Il n'y a pas eu un choc où ils ont dit, je lâche tout entre les mains de Dieu. Beaucoup n'ont pas tout lâché. Ils font beaucoup de choses, mais ils n'ont pas tout lâché. Car celui qui a tout lâché, c'est Dieu qui le conduit. Jésus a dit ça à Pierre, quand tu seras mature, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et t'amènera où tu ne voudras pas. Beaucoup de gens font des choses, mais ils n'ont pas tout lâché. Et le pasteur lui fait comprendre que tu es peut-être officiellement pasteur, mais tu n'es pas encore chrétien. Et lui, comme il était humble, comme il avait soif, il a dit, maintenant je veux devenir chrétien. Et le pasteur a prié, ils ont prié ensemble. Et le soir, quand il ouvre sa Bible avant de dormir pour lire, il tombe sur Éphésiens 4, 11. C'est moi qui appelle les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, voilà, afin d'édifier mon peuple. Et c'est là qu'il reçoit son appel du ciel, parce qu'il s'était converti. Mais pour qu'il se convertisse, il fallait que quelqu'un soit courageux pour lui dire quoi. Officiellement, tu es pasteur, tu as le diplôme de théologie, mais tu n'es pas encore chrétien. Il fallait l'esprit d'Élie. Et le deuxième pasteur avait l'esprit d'Élie, l'esprit de Jean-Baptiste, pour lui dire, tu n'es pas chrétien. Pour lui dire ça clairement. Et c'est ainsi que Maurice Rey arrive non seulement au salut, mais il entre dans son appel. Vous voyez, bien-aimés, nous voulons que Dieu sauve les gens, mais nous devons être prêts à ramener les choses telles qu'elles doivent être. En prenant le risque d'être mal compris, en prenant le risque d'être traité d'extrémiste, et où est le mal d'ailleurs si on est extrémiste dans la vérité, c'est une bonne chose. Acceptons d'être en peau d'animaux et manger des sauterelles et du miel. Ça veut dire quoi? Notre vie, telle qu'on va la mener pour la gloire de Dieu, ça va donner cette impression-là. Vous savez, quand je suis avec mes amis avec qui j'ai fait des études, quand j'ai retrouvé encore un à l'aéroport de Johannesburg en venant ici, je parais vraiment comme ayant des peaux d'habits, des peaux d'animaux, et mangeant des sauterelles et du miel. Ils ont des maisons à gauche, à droite, dans plusieurs pays. Ils sont des responsables dans des organismes internationaux. Ils ont au minimum une Mercedes, une BMW. Et quand on se rencontre, ils doivent me regarder comme quelqu'un qui est habillé en peau d'animaux et mangeant des sauterelles et du miel. Pour eux, c'est ça, bien-aimé, et ça les interpelle. Ils comprennent bien que Dieu existe, parce qu'ils se disent, si cet homme en arrive là, c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'on se connaît comment j'étais avant, et ils se disent, si lui arrive là, il y a quelque chose. Ils sont interpellés, ils sont choqués. C'est, bien-aimé, il faut qu'on en arrive là. Ta vie donne cette impression-là, quelqu'un que tu aimes beaucoup meurt, mais c'est toi qui conseilles les gens, qui fortifies les gens. Non pas que tu n'es pas attristé, mais Dieu t'a consolé, Dieu t'a fortifié. Tu es différent. Donc il faut qu'on atteigne ce stade-là où on devient différent, et cette différence-là interpelle pour amener les gens à chercher le Sauveur qui est Jésus-Christ. C'est ça l'esprit d'Élie. Ce n'est pas une question de théorie. Jean-Baptiste n'était pas dans la théorie comme les pharisiens, parce que les pharisiens aussi disaient aux gens qui sont dans le péché. Mais tout en commettant eux-mêmes les mêmes péchés, tout en étant dans l'hypocrisie, Jean-Baptiste avait une vie ouverte, claire et nette, pas de politique. Parce que si les pharisiens réellement reprochaient aux gens le péché, pourquoi ils n'ont pas reproché à Hérode? Parce que c'était la politique. Il ne fallait pas dire à Hérode, parce que si tu dis à Hérode, tu es emprisonné. Ah, pour Hérode, ils n'ont pas touché. Ils attaquaient le petit peuple qui n'avait rien du tout, qui n'avait pas de pouvoir. Là, ils pouvaient attaquer le petit peuple. Et quand il fallait attaquer les grands, ils n'attaquaient pas. C'était des politiciens. Mais Jean-Baptiste a dit la vérité à tout le monde. Petit ou grand, petit et grand, il leur a dit la vérité. C'est ça, il n'y a pas de compromis. Donc nous devons, bien aimés, adopter cette attitude. C'est ça qui fera que les gens auront besoin d'un sauveur. C'est ça qui fera que les gens auront besoin de Jésus-Christ. Vous savez, c'est écrit dans 2 Timothée, « Prêche en toute occasion favorable ou non. » Il y aura des occasions qui ne seront pas forcément favorables, où on sera considéré comme quelqu'un, comme un cheveu dans la soupe, comme j'étais à un mariage et fallait que j'exhorte, ben, j'ai tapé sur la parabole des invités. Donc, il y en a qui iront en enfer parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur. Jésus nous invite au vrai mariage. Ça, ce n'est qu'un petit mariage auquel nous assistons. Le grand mariage, c'est le festin des noces de l'agneau. Bien-aimé, quand tu interviens comme ça, tu es considéré comme un rabat-joie. Tu viens casser, les gens sont là. Mais il faut que les gens connaissent la vérité. C'est ça qui va les amener à chercher le Sauveur Jésus. Donc, de sorte que quand Jésus vient, les gens sont sauvés. Donc nous qui voulons, nous prions pour l'évangélisation, prenons en compte ce paramètre-là. Avant Jésus, il y a d'abord Jean-Baptiste. Et cet ordre sera maintenu jusqu'au bout. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui dit, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur lui-même qui dit dans Malachie 4 que avant le retour du Seigneur, il y aura Jean-Baptiste, il y aura l'Esprit d'Élie qui viendra. Donc c'est à chaque fois, ça se répétera dans la vie d'un homme. C'est-à-dire, il faut d'abord que la vérité soit posée dans la vie d'un homme. Ensuite vient le Sauveur. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous devons regarder maintenant nos vies et imiter notre bien-aimé Jean-Baptiste en vivant nous-mêmes comme lui, d'une manière sainte, c'est-à-dire mise à part. Jean-Baptiste était mis à part. Il n'était pas dans le rythme de tout le monde. Il ne faisait pas les choses comme tout le monde, en faisant des calculs comme tout religieux de son époque. Non, lui, il était dirigé par le Saint-Esprit. Et on l'a vu jusqu'au bout, jusqu'au point quand il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et après, c'est Jean-Baptiste lui-même qui dit à ses disciples, maintenant, il faut suivre celui-là, ce n'est plus moi qu'il faut suivre. Donc, il était dirigé par l'Esprit, il ne faisait pas les choses comme tout le monde, avec des calculs humains, mais il faisait les choses par l'Esprit de Dieu. Nous devons imiter cet homme-là et mener une vie comme ça, une vie qui est considérée comme un échec par les gens qui l'environnaient, mais qui est une réussite pour Dieu. Une vie anormale. Parce que pourquoi vivre avec des peaux d'animaux à l'époque où il y avait déjà des tissus et manger des sauterelles et du miel à l'époque où il y a la viande? C'est parce que c'était une vie qui devait marquer la sainteté de Dieu. Et nous, nous sommes appelés à la même chose. On ne demande pas forcément de mettre des peaux d'animaux, mais de montrer qu'on est différent, on est de Dieu. Et c'est là que les gens comprendront qu'ils ont le péché, ils ont un problème. Nous devons répondre au mal par le bien. Nous devons pardonner. Nous ne devons pas garder rancune. Nous devons être patients. Si nous manifestons le fruit de l'Esprit jusqu'au bout, sans juger les gens qui nous entourent, c'est là que les gens verront la différence. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à ressembler à Jean-Baptiste dans sa nature, dans son vécu de tous les jours, dans sa mise à part, dans sa sainteté. Il a été mis à part dès le ventre de sa mère pour être à toi, Seigneur, que nous puissions nous mettre à part et être à toi. Que nous puissions pas nous dire, je suis venu deux fois à l'assemblée, c'est bon, j'ai fait ma part. Non, que nous puissions marcher par l'Esprit, Seigneur. Que nous puissions pas nous dire, j'ai donné 10 euros à Dieu, c'est bon. Non, que nous marchions par l'Esprit dans tout ce que nous faisons comme sacrifice, Seigneur. Que nous puissions pas faire comme les pharisiens et les sadducéens qui calculaient tout dans leur religion, mais que nous puissions vivre comme Jean-Baptiste. Tout donner. Une vie perdue parce qu'il est mort à environ 30 ans. Une vie perdue selon les hommes, mais gagnée pour le ciel. Ô Seigneur, aide-nous, Seigneur, à savoir dire la vérité aux petits et aux grands, à ne pas faire de compromis, à ne pas seulement dire la vérité aux faibles, mais à le dire aussi aux forts, à créer ainsi la soif du Sauveur. Même si, Seigneur, nous n'avons pas de succès, que nous puissions nous souvenir que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Mais tôt ou tard, ta gloire s'est manifestée. Et un jour, tu es venu prendre la suite, Seigneur. Et nous croyons que dans ce que nous allons faire comme Jean-Baptiste, tu vas prendre la suite après pour sauver ce qui a sauvé. Dans le nom de Jésus, Père éternel. Merci Seigneur de nous aider. à nous mettre à part. Mets-nous à part par l'Esprit Saint au nom de Jésus.